Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tout un chacun et bonjour à toute une chacune. Voilà, c'est comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, l'émission « Et si on en parlait ?» sur Radio Calade. Alors, dans cette émission « Et si on en parlait ?», on a l'habitude de parler de tout, de dire du bien, de dire du mal, de parler de très loin. Et aujourd'hui, on va parler de notre région du Beaujolais, puisque nous allons découvrir le portrait d'un habitant du Beaujolais, un habitant de Ville-sur-Jarnioux, donc dans l'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Et ma foi, ce gars du Beaujolais, on va dire, c'est Roger Masson. Bonsoir Roger.
Bonsoir Patrick.
Alors voilà, on va pas jouer à ceux qui se connaissent pas, hein, donc on va se tutoyer, ce sera plus simple parce que je crois que j'arriverai pas à te vous voyez. Et donc Roger, Roger Masson, c'est vrai qu'on se connaît depuis très très longtemps sur le Beaujolais, mais aussi sur Lyon. Et on va voir quand est-ce que l'on s'est rencontrés et puis on va voir à quelles occasions. Alors j'ai eu l'idée de t'inviter Roger parce que j'ai, après de nombreuses années, été très satisfait par l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim, centrale contre laquelle nous nous étions battus en son temps. Et j'ai dit, tiens, ça m'a fait penser à toi. Et j'ai dit, tiens, on va un petit peu découvrir ce qu'en pense Roger, mais pas que. Alors pour commencer, on va parler du bonhomme, hein, du bonhomme quand il était petit. Qu'est-ce qu'il fait à Ville-sur-Jarnioux? Est-ce qu'il a toujours habité là-bas? Quel a été son parcours? Alors Roger, on commence en barboteuse.
Même avant la barboteuse, en fait, mes parents étaient un couple reconstitué et hors la loi parce que mon père était encore marié. Mes parents se sont rencontrés après, ma mère était veuve de guerre et mon père était séparé et avait décidé de déménager. Alors ce qui est intéressant pour éventuellement les auditeurs, c'est que ce qui caractérisait mes deux parents, c'est qu'ils ont été résistants tous les deux.
Ouais.
Donc je suis un enfant de résistants, mais c'était des résistants un peu atypiques. Parce que mon père, c'était un gamin de la bourgeoisie industrielle socialiste de Lyon. Et il en a gardé un fort caractère libertaire toute sa vie. Mmh. Et ma mère, c'était une enfant de paysan qui était devenu boucher, charcutier, restaurateur, etc., en Haute-Loire, et qui avait été surtout marquée par la boucherie de la guerre de 14, où elle avait perdu la même journée aux Dardanelles de trois de ses oncles.
D'accord.
Et pour elle, ce qu'il fallait arrêter en 40, c'était la guerre. Donc elle s'est crue pétiniste, et dès qu'elle a vu que le système s'installait avec de la collaboration, eh bien, elle est passée à la résistance directement, avec les premiers résistants, donc pas ceux de la dernière heure, mais les vrais.
Oui, les vrais.
Voilà.
Alors, comment cette famille est arrivée à Ville-sur-Jarnioux?
Lyon a été bombardé à partir de 1943, je crois, par les Anglais et les Américains. Alors, les Anglais, ils faisaient du bombardement en piqué et ils détruisaient à peu près leurs cibles. Et les Américains faisaient, avant la guerre du Vietnam, déjà du tapis de bombes.
Ah donc, oui, ils rasaient avaient... tout, quoi.
Oui, ben oui, mais surtout, ils bombardaient tellement haut que, par exemple, la voie ferrée qui va entre La Part-Dieu et Perrache, ils l'ont ratée tout le long, mais ils ont ratatiné tous les immeubles au nord de l'avenue Berthelot. Donc il n'y avait plus de logement à Lyon, et mes parents ont cherché quelque part à s'installer. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ils ont trouvé une maison à Ville-sur-Jarnioux. Donc, ils s'y sont installés avant ma naissance.
D'accord.
Et donc, moi, je peux dire que je suis
un gars de Ville-sur-Jarnioux.
Voilà. Bien que je ne sois jamais allé à l'école à Ville-sur-Jarnioux, parce qu'après, mes parents ont trouvé du boulot à Lyon et j'ai fait ma scolarité à Lyon. Mais j'ai toujours passé mes vacances, mes week-ends à Ville-sur-Jarnioux. Toujours.
Alors, ce parcours étudiant et ensuite professionnel, il est passé par où?
Alors,
bon élève, mauvais élève?
Ah oui, je fus un très bon élève. Jusqu'en troisième, j'ai eu plein de prix d'excellence. Mmh. Enfin, je crois que toutes les années, quasiment. À l'époque, ça se faisait avec une cérémonie, on nous donnait des bouquins. Chez nous, on lisait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'étais content de gagner des bouquins. Ah oui, j'étais aussi boursier Édouard Herriot. C'est-à-dire, comme mes parents étaient modestes, Édouard Herriot avait créé une fondation qui récompensait les 50 élèves de la ville de Lyon les plus méritants et issus de milieux modestes. Il y avait des enfants issus de milieux non modestes qui nous valaient largement, mais eux, ils n'étaient pas aidés. Donc voilà. Donc j'ai été boursier Édouard Herriot de la 6e à la terminale. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après la 3e ?
Eh bien, il s'est passé quelque chose qui a été un incident majeur. C'est que ma mère est décédée des suites d'une opération, une septicémie. Donc ça a tout bouleversé. Mon père a perdu son emploi. Ça a été assez dur pour moi. Je peux dire que j'ai connu plus que la pauvreté pendant une période assez courte, pendant quelques mois, enfin un peu plus d'un an. Et donc, pour m'en sortir, j'ai passé le concours d'entrée à l'École normale d'instituteurs de Lyon, que j'ai réussi. J'ai fait la formation. Puis après, comme j'étais pas très discipliné, pour me punir, on m'a nommé dans les classes dites difficiles, avec des élèves qui étaient en échec scolaire. Voilà, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis, les réformes et les ministres succédant à l'éducation nationale, j'ai été amené à me reconvertir pendant 5 ans, à peu près. Et là-dessus, pendant des stages de formation, etc., on m'a invité à faire acte de candidature à une formation particulière à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, qui n'existe plus maintenant, c'est l'École normale supérieure de Lyon, mais à l'époque c'était vraiment à Saint-Cloud, en banlieue parisienne, et j'ai fait cette formation et j'en suis sorti pour enchaîner sur, au moment où il a été créé dans l'éducation nationale, ce qu'on appelait la mission à la formation des personnels de l'éducation nationale. Et là, on m'a chargé de former les profs de l'Académie de Lyon, les enseignants de l'Académie de Lyon, à l'usage de l'audiovisuel pendant l'usage pédagogique de l'audiovisuel. Alors du coup, à cette occasion, j'ai repris mes études et j'ai passé de DESS, ce qui maintenant s'appelle le Master 2, un en sciences de l'éducation et un en sciences économiques et sociales. Mais ces diplômes universitaires ne me faisaient pas progresser statutairement. J'avais toujours un statut un peu à la noix. J'étais entre-temps devenu prof de collège, mais bon, c'était un statut qui a disparu d'ailleurs. Donc il fallait encore se reconvertir et tout. Donc là, j'ai passé un concours de circonstances. C'est un concours qui m'a fait passer au statut d'ingénieur de recherche et de formation dans l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, c'est comme ça que j'ai terminé ma carrière.
D'accord.
Donc, et j'ai été à cette période-là, pendant toute cette période de reconversion et de formation des enseignants, j'ai été conseiller de 3 recteurs successifs pour les nouvelles technologies.
D'accord. Donc un monde qui s'est tout le temps déroulé dans l'enseignement, en fait.
Oui.
Et alors, la situation de l'enseignement actuellement
il se trouve que...
Le numérique a progressé dans l'enseignement français ?
Alors, j'allais dire que ça fait déjà 6 ans que je suis à la retraite. Donc, fort heureusement, quand je vois vos installations ici à Radio-Canal, je pense que on va dire, la mutation numérique, elle a eu lieu dans toute la société. Moi, j'ai, comme on disait autrefois, j'ai rupiné à bloc sur les premiers serveurs numériques. Je connaissais bien les serveurs de la télévision japonaise de vidéo à la demande, de la VOD, comme on dit maintenant. Ça m'a bien servi pour réussir brillamment le concours d'ingénieur de recherche, parce qu'à l'époque, je rupinais vraiment à bloc dans ce domaine. Maintenant, je suis complètement largué technologiquement. Sauf que j'ai quand même accompagné le passage de ce qu'on appelle la convergence numérique. C'est-à-dire que, au début où je me suis intéressé au numérique, c'était le numérique de l'audiovisuel, de la vidéo et du son, comme le vôtre. Mais il s'est passé un truc, c'est que l'arrivée d'Internet
a tout bouleversé.
A tout changé. Mmh. Mais en fait, Internet et l'audiovisuel, enfin l'image fixe, l'image animée, le son et le textuel et l'image graphique, etc., tout ça a été porté par la même technologie, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle l'informatique. Et cette mutation technique, elle a fait que toute l'informatique est devenue le support de tout. Mmh. Alors après, il faut une des mutations très très fortes qui m'avait échappé, moi je dois bien le dire, c'est l'arrivée des réseaux sociaux de ce genre d'outils que les gens se sont appropriés à l'usage, mais... J'ai toujours gardé un peu un esprit critique. Je suis très vigilant et très inquiet du poids des GAFAM. Mmh. Parce que le citoyen qui est derrière l'ingénieur et derrière le pédagogue, il ne peut pas s'empêcher de redouter la puissance qu'ont pris ces entreprises.
Bien sûr,
et l'effet qu'elles ont sur les gouvernements, quels qu'ils soient.
C'est le grand sujet actuellement. Oui.
Voilà.
La force de ces GAFA, que sont ces grands réseaux, ces grands développeurs d'algorithmes qui nous surveillent un petit peu de temps en temps.
Oui, alors, non seulement ils nous surveillent, mais alors... Moi, une des choses qui me frappe, hein, parce que j'ai toujours aimé la vie sociale et les gens, j'aime profondément les gens, même s'ils pensent pas comme moi. Et ce qui m'inquiète, c'est que quand je vois un couple au restaurant qui, au lieu de se parler, regarde chacun leur smartphone,
oui.
Je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand je vois des gens qui ce matin, chez un imprimeur, venaient pour préparer une manif. De préparer une manif à propos de problèmes climatiques, travailler sur un ordinateur d'une grande marque célébrée par un fruit qui est certes une boîte américaine, mais surtout une boîte qui est fabriquée en Chine et surtout dans des pays que les Chinois utilisent comme sous-traitants, avec des conditions d'emploi, etc., qui sont complètement hallucinantes. Mmh. Et donc, voilà.
Oui, il y a des incohérences.
À ce point-là. Mmh. Et les gens le font en toute innocence.
Tout à fait, ouais, c'est une habitude maintenant.
Voilà. Alors, donc moi, en tant que... Maintenant, comme je commence à être un vieil homme, puisque j'approche les 69 ans et bientôt donc 70... Je me dis que j'ai porté Internet vraiment en pensant que c'était un progrès gigantesque. Et maintenant, je reste convaincu que c'est un bon outil. Mais quand je vois que, par exemple, Trump propose de déplacer tous les centres, ce qu'on appelle les data centers, donc tous les gros outils informatiques.
L'ordinateur qui stocke les données, oui.
Voilà, c'est des dizaines, des centaines de milliers de serveurs qui sont regroupés, et il faut les refroidir. Mm. Et la consommation d'énergie, je vous invite à regarder le site de l'ADEME régulièrement, parce que c'est tout simplement effrayant. Mm. Et donc, s'ils s'intéressent au Groenland... C'est parce qu'ils roulent pour tous les GAFAM qui, eux, ont besoin d'aller mettre leur...
Là où il fait froid.
Où il fait froid, parce que, avec le réchauffement climatique, la clim leur coûte une fortune en énergie. En énergie au sens financier, mais vu du côté citoyen et humain, du côté énergétique. Mm-hmm. C'est-à-dire, voilà.
Donc, voilà, c'est on a glissé tout doucement d'une enfance auprès de parents résistants, une enfance... où on lit beaucoup, une enfance où on étudie beaucoup, mais où on réussit, mais une enfance qui a forgé un caractère, apparemment, puisque, mine de rien, on est tout de suite arrivé dans la passion pour les individus et la peur de tout ce qui est gros, tout ce qui est immense, tout ce qui détruit la planète. Et c'est de ça dont on va parler un petit peu. Alors, parallèlement à toutes ces... tous ces travaux, ce travail et puis ces études. Il y a aussi un caractère, vif qui s'est mis en œuvre et une application forte dans tout ce qui est justement ce dont on vient d'évoquer, la protection de la planète, l'antimilitarisme, voilà. Alors, comment on arrive à militer ?
Bon, alors évidemment, je fais partie des jeunes de la génération 68, puisque j'avais 17 ans en 68. Et j'ai participé aux manifs de lycéens, où pour nous, c'était la fête, c'était la joie, on rencontrait beaucoup de monde, on découvrait en tant que lycéens les étudiants, les profs de fac, une forme de pensée qui nous plaisait bien, c'était la liberté... C'était découvrir des filles au printemps.
Ben voilà, tout c'était, ce qui fait la vie.
C'était la vie. Ouais. C'est bouillonné de vie à ce moment-là. On aurait dit un bouillon de culture, voilà. Comme disait une émission célèbre de France Inter. Enfin bon, donc ça a été une période de sensibilisation. Alors j'avais déjà, par culture familiale, un regard, éveillé. On lisait le journal chez moi, on écoutait la radio, on écoutait des émissions où les gens parlaient. On n'écoutait pas que de la musique.
Ah, là, bien sûr.
On écoutait de la musique, mais on écoutait des causeries, comme on disait à l'époque.
Alors justement, puisqu'on parle d'écouter de la musique, on va en écouter une d'un chanteur français que tu aimes bien, Georges Brassens.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie. Vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part,
les imbéciles heureux. Voilà. C'était Georges Brassens, donc. Alors, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, même dans les campagnes, on en rencontre. Hein. Il y a des gens qui défendent leur clocher de plusieurs façons différentes. Et il y a les imbéciles heureux qui font du clochemerle un petit peu trop fréquemment. Alors, donc, on en était à cette arrivée dans l'engagement militant.
Voilà, donc...
La participation, l'organisation, la création de mouvements...
Il y a eu une période où beaucoup de gens se posaient des questions. C'était l'époque du mouvement hippie aux États-Unis. C'était... Il y a des gens qui quittaient la ville pour aller fonder des communautés dans les campagnes. Je pense à l'Ariège, je pense à la Haute-Provence, etc., enfin, et ailleurs. Enfin, il y a eu tout un mouvement social, de la jeunesse et des... jusqu'au quadra, même au quinquagénaire, qui décidait de vivre autrement. Et puis, il y a eu le départ de Gaulle, la fin d'une période, et il y a eu une présidentielle étonnante où est arrivé un type avec un pull rouge, un verre d'eau, et qui était...
René Dumont.
René Dumont, qui était un ingénieur agronome qui avait contribué... à essayer de convaincre les Africains de cultiver comme chez nous, et qui avait constaté que c'était catastrophique, ce qu'il prônait. Donc, il a découvert, il a popularisé une science qui s'appelle l'écologie. Et moi, je fais partie de toute une génération de gens qui, à l'époque, étaient intéressés par un mouvement politique qui était le PSU avec Michel Rocard, et qui essayait de dépoussiérer le socialisme plus ou moins inféodée au système soviétique et à une certaine idée et qui s'éloignait de plus en plus des idées de Jaurès. Et donc, moi, étant donné mon éducation, je trouvais que c'était bien, mais je pensais qu'il ne fallait pas rester accroché au XIXe siècle et qu'il fallait essayer de voir les problèmes contemporains. Donc les problèmes contemporains, depuis 1974, j'ai toujours la même analyse, c'est-à-dire que je pense que, contrairement à ce qui est très à la mode actuellement et que, hélas, des gens présentent comme étant la base du greenwashing, comme on dit maintenant, la planète n'est pas en danger. Ce qui est en danger, c'est l'humanité.
C'est l'homme.
Ouais. Mais l'humanité à cause de lui-même. Mmh. C'est-à-dire que la planète, elle se passe très bien.
Elle se passera de nous.
Oui, voilà. Donc en fait, l'enjeu, c'est est-ce que nous sommes prêts à nous sauver, nous-mêmes. La planète, elle mourra de sa belle mort le jour où le soleil
explosera.
Et voilà, elle deviendra une géante rouge. Mais ça ne relève pas des temps humains. Mmh. Donc, par contre, ce qui relève du temps humain avec une accélération fantastique, c'est la mise en péril de l'humanité par elle-même. Mmh. Et ça, ça a été l'objet de mon engagement depuis 1974 jusqu'à maintenant.
Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés.
Voilà, on peut le dire.
Voilà, on s'est rencontrés autour, contre plutôt, le nucléaire, pas que. Et c'est pour ça que je parlais de Fessenheim en début de...
Et oui.
En début de...
Et oui.
Alors cet arrêt, il y en a qui disent qu'il ne fallait pas l'arrêter, elle marche très bien cette centrale.
Oui, mais alors actuellement, il y a un terme qui est à la mode, c'est les fausses nouvelles ou en anglais les fake news. Alors le nucléaire, c'est le pompon en matière de fake news, si on peut dire. C'est-à-dire que jamais les gens, malgré par exemple des hordes, 95% des physiciens nucléaires français, je ne parle même pas des prix Nobel et des physiciens nucléaires du monde entier, se sont arc-boutés contre l'utilisation, alors d'abord militaire du nucléaire et ensuite civil. Alors le nucléaire civil en France, il faut être... dire ce qu'il est. Le nucléaire civil a été lancé sous le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle pensait, pas forcément à tort, en tout cas, pensait que pour se protéger, pour protéger la France d'une autre guerre,
il fallait la bombe.
Il fallait qu'on soit bien armé. Donc c'est la fameuse force de dissuasion. Et à l'époque de la guerre froide, pour être pris au sérieux comme force de dissuasion, il pensait qu'il fallait avoir du nucléaire. Donc il fallait se le fabriquer. Alors on avait des physiciens, les polytechniciens notamment, mais on avait beaucoup de très bons ingénieurs et de très bons matheux en France, et de bons physiciens. Donc il fallait trouver une filière industrielle qui fabrique du plutonium à l'insu du plein gré du citoyen de base.
Et, ce sont les centrales nucléaires
de la filière dite UNGG, c'est-à-dire uranium naturel graphite gaz, qui ont été les premières centrales nucléaires et qui étaient d'abord des centrales plutonigènes. Donc il fallait produire du plutonium pour pouvoir faire les bombes A. Lesquelles bombes A, pour nos auditeurs, sont les détonateurs des bombes H.
Voilà, c'est ça. Alors, on va bientôt se quitter. Donc, il a fallu 40 ans hein, pour arrêter la centrale de Fessenheim.
Ça a été plus vite pour Malville, fort heureusement.
Oui, parce que voilà, là, celle-là, c'était un surgénérateur. Oui, celle-là, c'était encore pire. Alors, donc, voilà. Donc, on nous cache des choses, comme tout le monde dit, mais c'est pas la théorie du complot. Non, c'est volontaire. On a besoin de plutonium pour fabriquer des bombes, donc on en fabrique par le nucléaire, etc. Et on n'informe surtout pas la population. Alors, la population, tu disais tout à l'heure que tu aimais les gens. Et les gens, c'est la proximité, c'est les informer, bien entendu. C'est partager avec eux, c'est le lien social, comme on dit maintenant. Et ça se passe aussi dans les petites communes. Comment ça se passe à Jarniou ?
À Ville-sur-Jarniou,
oui.
Alors, à Ville-sur-Jarniou, ça se passait peu. Et comme ça n'a pas dû échapper à grand monde, il y a eu la crise des Gilets jaunes et il y a eu une proposition du président de la République actuelle qui a essayé de juguler cette crise en proposant le grand débat.
Oui.
Alors moi, avec un vieux copain, on s'est dit, bah tiens, puisqu'il y a cette occasion, on y va, on fait le grand débat à Vie-sur-Jarnioux.
Et alors, ça s'est bien passé ?
Eh bien oui, ça s'est bien passé, on a fait des ateliers sur les quatre thèmes, etc., en disant c'est ouvert, c'est les quatre thèmes proposés par le président de la République, mais c'est tout ce que vous voulez. Donc on l'a fait dans le cadre officiel, mais, et ça a bien marché, enfin, bien marché, c'est-à-dire que si quand des gens organisent ça sur Villefranche, ça veut dire qu'ils auraient 1500 personnes. Nous, on a eu une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de personnes.
Ouais, Jarnioux, c'est tout petit.
Voilà. Donc c'est correct, c'est 10% du corps électoral, c'est pas mal. Et on a fait une première réunion, puis une deuxième sur d'informations au moment de l'élection du Parlement européen. Parce que les gens, ils comprennent rien sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Faut expliquer, faut discuter.
Donc on a proposé ça. Après, on a organisé une réunion sur le fonctionnement des EPCI, c'est-à-dire de la communauté de communes, communauté d'agglo. Voilà. Après, les gens ont dit, ça serait bien qu'on puisse quand même dire ce qu'on aimerait bien voir à Vie-sur-Jarnioux. Donc on a fait deux réunions publiques là-dessus. Et là, la mairie nous a dit qu'on pouvait pas continuer à faire ce genre de réunion si on n'existait pas sous forme d'association. Donc on a créé une association qui s'appelle Culture Citoyenne.
Voilà. Et petit à petit, ces rencontres, etc., ça a amené à un engagement politique.
Alors ça nous a amené à dire qu'il fallait témoigner et qu'on ne pouvait pas laisser s'instaurer une dynastie dans notre village, puisque c'est le fils du maire sortant qui se présente. Moi, j'ai aucune acrimonie contre lui, mais je me disais, c'est bon, la dynastie, on a des ancêtres qui se sont battus contre. C'est pas un mode républicain. Donc on a présenté une nouvelle liste.
Donc voilà, donc tu es candidat aux prochaines municipales avec des colistiers sur Vie-sur-Jarnioux.
Voilà.
Eh bien, ma foi, on verra ça à partir du 15. Ben voilà, Roger, c'était court, cette demi-heure, parce qu'avec toi, on pourrait parler pendant des heures. Et on a laissé plein de sujets, on les a juste survolés. Mais voilà, c'est un personnage qui habite dans le Beaujolais, dans notre agglomération, que j'avais envie de vous présenter. Bonsoir,
merci
Roger,
beaucoup.
À bientôt. Et à la prochaine émission. Salut.